Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, chantait du bel air le poète. Heureux, pas sûr. Jean-Pierre Vernon, professeur honoraire au Collège de France, spécialiste de la Grèce ancienne, nous raconte cette terrible odyssée, l'aventure d'Ulysse, le rusé, qui, après tant d'obstacles, parvint enfin à Ithaque, où il retrouva sa femme, la belle Pénélope.
Jean-Pierre Vernon, on parle aujourd'hui encore de l'odyssée d'un coureur cycliste. Ça veut dire à la fois une course d'obstacles et une course d'endurance pour celui qui la vainc. Et tout cela, ça vient d'Ulysse.
Oui, ça vient d'Ulysse. Ulysse, c'est comme la contrepartie légale d'Achille. Achille, c'est l'Iliade, c'est le héros modèle de la mort héroïque. Et Ulysse, c'est le héros modèle de celui qui, au lieu d'accueillir la vie brève, veut rentrer chez lui. Le héros du retour chez soi, de la fidélité à son pays, à son passé, à son identité, à ses souvenirs. Ce sont donc deux personnages assez différents. Comment se fait la liaison ? Elle se fait parce que ce que nous évoquions plus tôt, qu'à savoir la bestialité de la guerre, elle va se manifester pleinement au moment où les Grecs arrivent à entrer dans la citadelle. Ils ne peuvent pas y arriver, ils ont cette ruse du cheval de Troie, ils font semblant de s'en aller, ils laissent sur le rivage un cheval énorme en bois dont on peut croire qu'il s'agit d'un don aux dieux. Mais à l'intérieur, il y a une avant-garde. Les Troyens commettent l'erreur de faire entrer le cheval chez eux et de fêter le départ des Grecs. Et bien entendu, en plein milieu de la nuit, cette avant-garde sort des flancs du cheval, ouvre les portes, et alors c'est le massacre. C'est le massacre de tous les hommes, des femmes, des enfants. Celles qui ne sont pas massacrées sont emmenées en esclavage. Les sanctuaires ne sont pas respectés. Les Grecs se couvrent de sang et de honte. Et par conséquent, quand ils vont repartir, l'affaire n'est pas finie. Les dieux mêmes qui les avaient soutenus vont s'indigner de cette, disons le mot grec, de cette hubris, de cet orgueil démesuré, de cette incapacité de respecter certaines règles. Les flottes vont être dispersées, il y aura les tempêtes. Je passe sur le détail. Ulysse, avec toute sa flottille, parce que chaque roi local amène avec lui ses compagnons, à la fois ses égaux et aussi ses vassaux. À un moment donné, il veut rentrer à Ithaque, il a échappé à la tempête, et il passe au Cap Malais, et de là, il croit qu'il est arrivé. Et alors là, tout d'un coup, ça n'est plus l'espace géographique que les Grecs connaissent bien, une tempête de 7 jours se lève, et Ulysse et ses hommes vont être tout d'un coup plongés dans un pays qui est l'autre, un ailleurs radical, un monde de nulle part. Ils vont plus rencontrer d'êtres humains. Ils vont rencontrer soit des cannibales qui se nourrissent de chair humaine, soit de personnages qui se nourrissent, qui sont quasi divins, de nectar et d'ambroisie. On n'est plus dans un monde humain. Ulysse est envoyé aux frontières de l'humanité. Et là, c'est ça son épreuve. Et le problème est de savoir si, en dépit de tout cela, il saura résister contre les forces nocturnes qui l'assaillent pour lui faire abandonner son caractère humain, pour faire que il continue toujours à se souvenir qu'il est Ulysse, que Pénélope l'attend, qu'il a un fils. La fidélité à soi, même si on est rejeté aux frontières de l'humain. C'est ça le problème.
En fait, il doit payer exemplairement tous les excès que les Grecs ont commis.
En partie, il doit payer exemplairement. Les autres ont trouvé la mort. Agamemnon, il est assassiné. La plupart périssent dans les tempêtes. Et lui, Ulysse, voilà, il est jeté aux frontières de l'humain. Et ça se voit tout de suite. Aussitôt qu'ils sont embarqués par cette tempête, au bout de 7 jours, ils arrivent dans un pays qui est le pays des lotophages. L'homme, la créature humaine, c'est celle qui mange le pain, boit le vin, sacrifie au moment de manger, ne mange que l'animal d'une bête sacrifiée qui a des règles alimentaires et reconnaît l'hospitalité. Là, il tombe sur des gens, l'autophage, les mangeurs de lotos. Il envoie une avant-garde pour voir chez qui il est. Les lotophages reçoivent très bien ces envoyés et ils leur font manger du lotos. Le résultat est immédiat. Ils oublient tout. C'est le lotos, l'aethé, qui veut dire oubli en grec. Ce sont le pays de l'oubli. Ceux qui ont mis le pied là oublient ce qu'ils étaient, oublient complètement. Quand ces quelques marins reviennent et qu'on leur dit « qu'est-ce que vous avez vu ?» Ils n'ont qu'une idée, rester sur place, ne pas renouer avec le passé. Faire comme si chez les hommes, le passé n'existait pas. Alors on les rembarque et on part, et là il va arriver le monde de la nuit, ces forces de la nuit, ces enfants de la nuit que Chaos a engendrés, et en particulier l'oubli, vont peu à peu dominer toute cette expédition. Ils arrivent dans une île, ils ne l'ont pas vue. Ils ne l'ont pas vu, y a pas, la lune ne se montre pas. Tout d'un coup, ils se trouvent sur une île, un îlot, qu'ils n'ont pas vu venir. Les portes de la nuit s'ouvrent devant eux. Et c'est là qu'ils vont chez le Cyclope, avec ses mésaventures. Le Cyclope, Ulysse veut absolument savoir qui c'est Cyclope. Il va donc dans sa grotte. Ce Cyclope avale ses compagnons, la moitié, qui passe dans sa baleine. Et c'est là que Ulysse à cette idée, il lui demande, le Cyclope, « Qui es-tu ?» Et Ulysse lui répond, « Je m'appelle Outis, Outis personne. » Avec un jeu de mots, parce qu'en même temps, ou c'est la négation, il y en a une autre, c'est « mais », Outis, métis, et il est l'homme à la métis. Et alors,
l'homme à la ruse, donc.
L'homme à la ruse, l'homme à l'astuce, au mensonge. Il arrive à se sortir de là, mais à mon avis, j'ai essayé de le montrer dans certains de mes textes. Quand il dit qu'il est personne, il dit qu'en quelque sorte pris au mot. Le Cyclope va s'adresser à son père, Poséidon. Il dit qu'il est personne, mais il ne résiste pas parce qu'il y a une certaine vanité chez Ulysse. Ils sont arrivés à s'échapper de cette grotte. Ils sont sur le navire, ils s'éloignent à la rame. Et le Cyclope, aveuglé, puisqu'il lui a crevé l'œil, prend d'énormes pierres et les jette à peu près en écoutant d'où viennent les voix. Et à ce moment-là, Ulysse lui dit « Hé, Cyclope !» Ce qu'il veut, lui aussi comme Achille, c'est Cléos, Aphtiton, une gloire immortelle. « Si on te demande qui t'a vaincu et aveuglé, tu diras, non pas que c'est personne, tu diras que c'est Ulysse, le fils de Laërte, l'homme d'Ithaque, celui qui s'est couvert de gloire à Troie. » Et à ce moment-là, alors le Cyclope ne perd pas l'occasion et il s'adresse à Poséidon en disant « Hé, c'est Ulysse qui m'a fait ça !» Et surtout, ne lui laisse pas de répit. Et Poséidon ne lui laissera pas de répit, de sorte que, ce que je crois profondément, c'est qu'au cours de toute cette navigation qui finalement va faire qu'Ulysse est solitaire, et chaque fois, parce qu'ils ont oublié le retour, parce qu'ils ont oublié quelque chose. Alors la nuit s'étend sur eux, et ils se retrouvent tout seuls, sur un radeau. Il n'est plus personne. Il est devenu cet Outis que par défi et par ruse, il lançait à la tête du Cyclope. Il n'est plus personne, et il arrive chez Calypso, cette déesse qui le sauve, Calypso. C'est une personne qui est en quelque sorte hors du monde. Même les dieux ne vont pas chez elle, et les hommes, je n'en parle pas. Elle est dans un endroit perdu, elle est nulle part. Et ils tombent dans ce monde de nulle part. Et elle le recueille, et elle n'a qu'une idée, elle s'embête, c'est qu'elle a trouvé là un homme et qu'elle va en faire son époux. Et alors il va rester là très longtemps, des années, jusqu'au moment où les dieux se disent « non, ça va pas », ils envoient Hermès pour dire à Calypso « laisse-le partir ». Et lui, elle lui offre, et c'est ça qui est le nœud de toute l'affaire. Qu'est-ce que Achille, on lui disait « ou une vie paisible chez toi, tranquille, et puis avoir tout le bonheur, tu mangeras bien, tu écouteras de la musique, tu auras des filles, des enfants, etc. » Pas de gloire, ou bien la gloire immortelle, mais alors tu meurs jeune. Et Ulysse, il va aussi faire un choix héroïque. Il va faire un choix héroïque parce que Calypso lui dit, si tu restes avec moi, je te rendrai éternellement jeune et immortel. Jeunesse permanente, immortalité. Et quand elle lui dit ça, en même temps, il ne peut pas l'accepter. Pourquoi ? Parce que pour les Grecs, être immortel, c'est être immortel en gloire. C'est-à-dire que ce qu'on a été, son nom, les exploits qu'on a faits, le modèle humain qu'on représente, il faut que tout le monde le connaisse. Il faut que les poètes le chantent. Pindare dira, quand un exploit a été accompli, il faut qu'un poète le chante pour qu'il demeure. Alors lui, Ulysse, s'il reste avec Calypso dans ce monde de nulle part, où personne ne le connaît, où son fils, quand on dit « est ton père », il dit « mon père, je ne sais pas, il a disparu, il s'est effacé, il ne me laisse aucune gloire, plus personne ne sait, il est devenu anonyme comme les morts dans l'Hadès, qui n'ont pas de nom, pas de visage, pas d'identité. Ce qu'on lui offre, c'est une immortalité non glorieuse, non humaine, anonyme. Et c'est ça qu'il refuse.
Pas question.
Il refuse ce qu'il veut, c'est rester, ne pas oublier le retour, rester fidèle à la mémoire. Alors, au moment où Hermès vient et qu'il dit à Calypso, « Allez, tu vas le lâcher », et lui, où il est ? Où il est sur la grève, là, sur un petit rocher, assis là, devant la mer immense, cette immense étendue qui le sépare de tout, non seulement du retour, mais de son passé, de lui-même, au moment où il est Outis, personne. Et il pleure comme un veau, il se liquéfie en larmes dans le regret d'Ithaque, de sa femme, de son fils. Donc, c'est le drame, c'est quelque chose comme la tragédie de la mémoire, de la fidélité à soi, il ne faut pas qu'il oublie. Et finalement, il va rentrer, il aura encore beaucoup de difficultés, il rentre, des passeurs, les Phéaciens, chez qui il est, parce que Poséidon, quand il voit qu'il va rentrer de nouveau à une crise de fureur, brise son radeau sur lequel il est, il nage, il est à moitié mort, il arrive chez les Phéaciens, il raconte tout ce qui lui est arrivé, et les Phéaciens, qui sont aussi un peu un monde intermédiaire entre le monde de nulle part, et le monde grec, ils sont des passeurs. Aucun étranger ne vient chez eux. Les dieux viennent leur rendre visite, ils sont proches des dieux. Et ils ont des bateaux qui naviguent tout seuls à toute vitesse. Alors on amène là Ulysse, il s'endort, et il va se réveiller chez lui à Ithaque. Et à Ithaque, il va redevenir personne, parce que il est transformé par Athéna, avec son accord, en une espèce de vieux mendiant affreux, complètement déjeté, qui pue. Il est personne aux yeux des Grecs.
Et par ailleurs, ça fait longtemps qu'il est parti.
Ça fait 20 ans qu'il est parti. Donc en plus de cela, il n'est plus tout à fait le même. Mais en plus, il entre dans une identité complètement différente. Et ce n'est pas seulement une espèce de masque d'apparence, il devient cette espèce de mendiant. Et alors il arrive devant chez lui, à son palais. Il va y avoir là de nouveau. Il a été transporté par cette tempête. Il a été jeté dans un monde de nulle part, où peu à peu les forces de l'oubli et de la nuit l'envahissaient. Et voilà, il ressort comme un enfant qui revient chez lui, à la naissance. Et il va redevenir peu à peu Ulysse. Comment ? Par le fait que il va réintégrer sa place dans cette espèce d'échiquier des positions et des statuts que constitue le monde d'Ithaque. Il va être reconnu par ses amis, reconnu par son fils, reconnu par son père, reconnu finalement par sa femme.
Même par son chien, par sa nourrice.
Bien entendu. Et le premier qui le reconnaît, c'est son chien. Il est là absolument affreux, lamentable, les yeux chassieux, ses cheveux sont tombés, ses dents aussi, affreux à voir. Hein. Le terme qui est employé, c'est « il n'est semblable à rien, il n'est personne ». Il arrive devant son palais, Et il y a son chien qu'il a connu il y a 20 ans, jeune, qui courait après le gibier, et qui est devenu quoi? Un autre Ulysse en chien, lui aussi absolument déjeté. Il pue, il est sur un tas de fumier, il peut plus bouger. Mais le chien, il n'a pas à reconnaître Ulysse. Ulysse va être reconnu aux yeux des autres par des signes qu'il va leur donner, qui vont leur permettre de faire jouer leur mémoire et de se rappeler de ce qu'il était et d'établir la continuité entre le passé et le présent. Le chien ne fait pas ça. Il renifle Ulysse, il le flaire et d'un seul coup il le reconnaît. Il le reconnaît comment? Ulysse marche vers la porte du palais. Il a un de ses anciens serviteurs. Il lui dit, mais ce chien, oh ce chien autrefois, mon maître l'aimait, mon maître Ulysse. Et puis il était superbe, vif. Et Ulysse le voit, il doit se retrouver dans ce chien. Et ce chien se retrouve dans Ulysse. Il a juste la force d'agiter légèrement la queue, de lever les oreilles, de lever le museau, et il meurt. Et Ulysse se sent envahi de larmes, parce qu'à travers cette métamorphose du chien, c'est lui-même, c'est son destin qu'il voit. Alors, il va se faire reconnaître, grâce à une cicatrice qu'il porte, il va se faire reconnaître de son fils, parce que même le fils ne reconnaît pas, son fils ne l'a jamais vu. Mais il voit Télémaque, et pendant un moment, Athéna lui redonne à Ulysse son aspect normal. Et alors, Télémaque se dit, mais c'est un dieu, qu'est-ce que je vois? Tout à l'heure, tu étais un vieillard absolument répugnant, et maintenant, tu es un espèce, tu irradies la gloire et la force et la beauté. Et lui dit, ah, je suis ton père. Et comme Télémaque n'est pas convaincu, il l'engueule comme un père engueule son fils. Et quoi? Tu vas continuer un peu? Tu vas voir ça. Je te dis, je suis ton père, point final. Et Télémaque, finalement, est ravi, parce que Télémaque n'était pas lui-même faute de père. Il ne savait pas ce qu'il était. Il aspirait à un père. Quand on l'interrogeait, il disait, on dit que mon père est Ulysse, parce que je le sais. Et voilà, il rétablit avec lui le rapport de fils à père et de père à fils.
Et le rapport d'autorité au sens noble.
Un rapport d'autorité. Il remet en place l'assemblage des pièces que son départ a flanqué par terre. Et alors, dans ce jeu, pour retrouver, en quelque sorte, sa place, son statut, pour redevenir l'Ulysse, il y a une personne qui ne marche pas, c'est Pénélope. Pourquoi? Pénélope, ça fait 20 ans qu'il est parti.
Ça fait 20 ans qu'elle tisse, qu'elle file.
Ça fait 20 ans que, peut-être un peu moins, parce que ça n'a pas été tout de suite, que les prétendants sont venus, toute la jeunesse dorée, toute la jeunesse princière d'Ithaque et des îles alentours, ils sont tous venus auprès d'elle, ils sont installés chez Ulysse. Et là, il festoie, il mange ses bêtes, il boivent son vin, il courtise sa femme et il essaye de la pousser, considérant qu'Ulysse est mort maintenant, comme la plupart des gens le pensent, et que par conséquent, s'ils épousent la reine, ils prennent la place du roi dans son lit, et ils deviennent les patrons de tout ce royaume dont Ulysse était le monarque. Donc ils font la cour, et une cour coûteuse, puisque toutes les richesses de ce domaine y passent. Et elle tergiverse. Elle tergiverse, elle pense souvent qu'Ulysse est mort, mais elle n'est pas tout à fait sûre, il n'a pas donné de nouvelles. Il a disparu, comme dit le Télémaque, invisible, inaudible. Aucune, on ne peut pas le voir et on n'a eu aucun écho de lui. Il a disparu dans l'ailleurs, dans le monde de nulle part. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tisse, en effet, elle prétend qu'elle tisse un linceul pour le père de son mari quand il sera mort. Et elle fait ça pendant la journée et la nuit, elle enlève tout ce qu'elle a fait jusqu'au moment où ils s'en aperçoivent et où finalement ils la mettent au pied du mur. Elle doit choisir. Elle doit choisir un de ses prétendants. Donc, si Télémaque a besoin d'un père, si Laërte a besoin d'un fils et retrouvera une certaine jeunesse de vieillard quand il aura retrouvé Ulysse, même physiquement, si les compagnons d'Ulysse, ses amis, le bouvier, tous ses serviteurs ont besoin d'un maître, Ils sont comblés. Dès qu'ils voient cet Ulysse, ils sont tout prêts à l'accueillir. Elle, Pénélope, se méfie. Elle se méfie parce que, et c'est là que l'histoire est intéressante, Ulysse, Pénélope, elle ne veut pas un mari, comme Télémaque voulait un père, ou comme Laërte voulait un fils. Elle veut Ulysse lui-même. Elle veut Ulysse, et elle le dit, elle veut l'Ulysse de sa jeunesse. Elle veut être certaine que l'homme qu'elle va retrouver, et qu'elle voit d'abord sous l'aspect d'un vieux mendiant absolument lamentable et puant, d'un vieux mendiant, elle ne peut pas être lui, mais qu'ensuite, quand Athéna va lui redonner sa forme naturelle et même un peu l'embellir, elle retrouvera certains aspects d'Ulysse, mais il a changé.
Pénélope, c'est en fait un aspect très positif de la femme.
Tout à fait positif. Elle est dans l'Iliade, il y a Hélène qui est tout de même, puis il y a Clytemnestre qui est évoquée, la femme traîtresse, la femme qui, quand son mari revient, n'a qu'une idée, c'est de le faire périr. Et Athéna explique à Ulysse qu'il faut qu'elle le métamorphose, parce que ce qui est arrivé à Agamemnon, il doit y réfléchir. Il est rentré chez lui tranquille comme tout. Elle va étendre une espèce d'immense tapis pour qu'il marche, et puis ce qui l'attend, c'est qu'elle va le tuer à l'arrivée pour être avec son amant, Égiste. Va savoir si c'est pas ce qui attend Ulysse. Il ne le croit pas, mais c'est possible. Il y a donc cette femme chienne, elle est la gardienne, parce qu'elle dira dans la tragédie, j'ai été la chienne gardienne du logis. Mais elle était la gardienne du logis, mais surtout la chienne qui a finalement montré son tempérament. Donc, on est dans une situation où Ulysse est lui-même et n'est plus lui-même, parce que les ans ont passé, parce que ses mains ne sont plus les mains que connaît. À un moment donné, la nourrice, lorsqu'il est encore un vieux mendiant, la nourrice qui va reconnaître Ulysse, la première, elle dit à Pénélope, mais tu sais, il a quelque chose qui me rappelle Ulysse, il a les mêmes mains. Et elle répond, oh, les mêmes mains que doit avoir Ulysse après 20 ans et après tant de souffrances, s'il est encore vivant. Et alors le problème qui est posé, c'est celui de l'identité de soi. Ulysse n'était plus personne. Il est en train de redevenir quelqu'un. Est-ce qu'il est le même? Et comme il était en même temps un menteur épouvantable, qu'il a raconté à Pénélope, la première fois qu'elle le voit en mendiant, « Est-ce que tu as vu mon mari ?»« Oui, je l'ai vu. Il y a près de 20 ans, il était passé par chez nous. » Et lui raconte des sornettes. Elle se méfie donc. Et elle veut quoi? Elle veut qu'il y ait entre eux, non pas un signe reconnaissable, comme cette cicatrice, beaucoup de gens peuvent avoir la même cicatrice. Même Ulysse, il y a un arc qu'il est seul à pouvoir tendre. Et c'est pour ça qu'il peut tuer les prétendants. Mais dans le monde entier, il y a peut-être plusieurs hommes, Télémaque lui-même a failli y arriver. C'est pas une preuve. Ce qu'elle veut, c'est un signe qu'il lui donnerait et qui serait, en quelque sorte, la preuve absolument infaillible, inébranlable, que l'homme qui est devant elle est celui qu'elle a marié il y a 20 ans, l'Ulysse de sa jeunesse. Et alors cette preuve, c'est le fait qu'il y a entre deux tout seuls, un secret. Un secret, c'est quand ils sont mariés, Ulysse a construit son domaine et il a commencé par le lit. Et que ce lit, il l'a fait en prenant comme pied de lit un des oliviers qui était là, qu'il a taillé et qui est enraciné dans le sol du palais. Et par conséquent, c'est un lit inamovible, qu'on ne peut pas faire bouger. Et les gens ne le savent pas. Alors à un moment donné, pour le mettre à l'épreuve, elle dit à la servante, tu prends le lit de notre chambre et tu l'amènes derrière. Et à ce moment-là, Ulysse devient fou furieux. Connard, ce lit, vous voulez le bouger? Mais alors? Et alors, ça n'est plus ce lit immuable, inamovible, enraciné dans la terre et dans le passé, comme mes souvenirs, comme tu devrais l'être dans ta fidélité. Et à ce moment-là, elle comprend que c'est bien l'Ulysse de sa jeunesse. Elle se jette dans ses bras et ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Ulysse redevient dans les yeux de Pénélope. dans le regard que lui jette Pénélope, qui est un regard où elle retrouve l'Ulysse de sa jeunesse, il se retrouve dans son identité complète, bien pure. C'est même si vrai que, comme soi-disant, Pénélope devait célébrer son mariage avec un des prétendants à cette époque, les murs du palais sont fermés, on a nettoyé le palais, et Ulysse dit « Faites retentir la musique, qu'on entende le pas des danses », et les passants dans la ville disent « Ah, ça y est, Pénélope a retrouvé, elle a choisi, elle se remarie de nouveau ». Il y a donc une sorte de mariage à nouveau. Et quand ils sont tous les deux dans le lit, retrouvés, et qu'ils se racontent chacun leur passé, et où chacun d'une certaine façon devient l'autre, parce que quand Pénélope raconte ce qu'elle a souffert, elle la raconte comme si ça avait été une navigation, qu'elle était tombée à la mer, et que finalement elle le retrouve comme lui a retrouvé la grève quand il croyait se noyer. Ils échangent leurs identités. Et d'une certaine façon, on peut dire que toute l'histoire de l'Odyssée et l'histoire d'Ulysse et l'histoire de Pénélope, c'est l'histoire du rôle de la mémoire et du passé retrouvé, comme chez Proust. Ils sont là tous les deux, et d'une certaine façon, ces noces qu'ils célèbrent, ce sont les noces de leur jeunesse d'il y a 20 ans, quand ils se sont mariés. De nouveau, ils se retrouvent comme s'ils étaient jeunes. Le temps est aboli. D'une certaine façon, le temps est aboli par le récit, comme le temps est aboli par le fait que, d'une part, Ulysse n'a jamais oublié, qu'il n'a pas accepté cette immortalité que lui offrait Calypso, et que Pénélope, elle aussi, n'a jamais oublié. Le bois du lit enfoncé, la mémoire d'Ulysse, la fidélité de Pénélope forment une sorte d'élément structural dans le récit pour montrer qu'on peut être un héros sans, comme Achille, choisir la vie brève et la gloire immortelle de celui qui est mort jeune. On peut être le héros de la remembrance, de la fidélité à soi, des épreuves subies, et des épreuves subies sans que jamais on oublie ce qu'on est, qui on est et qui on aime.
L'histoire raconte même que Athéna a retenu l'aube pour que la nuit soit plus longue pour Ulysse et Pénélope. En fait, Ulysse, c'est le modèle même de l'histoire non tragique.
Non tragique. Oui, enfin, d'une certaine façon, dans l'Odyssée, quand, vous savez, c'est plus compliqué parce qu'il y a les suites de l'Odyssée, il y a aussi le fait qu'il ne doit pas rester là, c'est pas réglé encore pour lui, il doit filer de nouveau jusque dans des terres très lointaines avec une rame sur l'épaule et puis arriver à un endroit où les gens, en voyant cette rame, croiront qu'il s'agit d'une pelle pour faire sauter le blé, parce qu'ils n'ont jamais vu la mer. Alors là, il pourra faire un sacrifice, Poséidon, et rentrer, et être apaisé. Donc, il y a toujours une espèce de danger. Mais c'est vrai que dans l'Odyssée, la fin est positive, d'autant plus que il y a cette idée que indique Pénélope, que sur leur vieil âge, ils pourront avoir cette vie de bonheur que les dieux ne leur ont pas réservé auparavant.
Quel est le sens, en fait, de la ruse d'Ulysse, de son intelligence, de son mensonge? C'est pas du tout un sens négatif, là, non plus.
C'est les deux. Il y a à la fois un sens négatif et positif. C'est sa force, mais c'est aussi, quelque chose de pas... Le regard que porteront sur lui les Grecs, par exemple chez les tragiques, ou dans la littérature, les Grecs du 5e siècle ou suivant, quelquefois il est magnifié, quelquefois au contraire il est condamné par rapport à des héros qui justement ne sont pas les menteurs, qui ne feignent rien, qui ne font pas semblant d'être autre chose que ce qu'ils sont. C'est pas simple, il n'y a pas le menteur qui serait condamné radicalement, il y a l'homme à la métisse qui est à la fois une force, une nécessité, et qui peut en même temps être un danger et être une vilenie.
Jean-Pierre Vernant, vous avez parlé de deux modèles, Achille, la gloire courte, Ulysse, la durée. En fait, vous êtes le seul à pouvoir cumuler Achille et Ulysse.
Moi, je cumule rien du tout, moi. Je cumule quand je leur parle. Le reste, c'est pas du tout du cumul, là. Non, non. Ni héroïque à la façon d'Achille. Fidèle, assez fidèle, oui, mais enfin. Fidèle. La fidélité ne dépend pas que de soi, les gens peuvent disparaître. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut dire, c'est que ces deux modèles représentent la façon dont l'Odyssée continue l'Iliade et en même temps contredit l'Iliade. Il y a une contradiction flagrante puisque dans l'Iliade, la mort jeune, est-ce qu'on peut souhaiter de mieux parce que c'est la gloire immortelle. Et que dans l'Odyssée, au moment où Ulysse fait ce sacrifice aux frontières du monde et même au bord d'océan, à la limite même du monde, dans un monde où jamais aucun rayon de soleil ne parvient, monde des morts déjà, les ombres des morts apparaissent, et il y a celle d'Achille, il peut parler un moment à celle d'Achille, et il dit à Achille, « Ah Achille, comme tu es, quelle chance tu as eu quand tu étais à la lumière du soleil, tout le monde t'admirait, tu étais le meilleur des héros, et ici, tu règnes sur les morts, tu continues à être le grand Achille. » Et Achille lui dit, l'homme de la gloire immortelle, de la mort jeune, Achille lui dit, « Mais écoute, ça c'est des bêtises, je préférerais être vivant à la lumière du soleil, vivant et voyant à la lumière du soleil, et visible, et être le dernier des serviteurs, des esclaves, dans le fumier, au service d'un pauvre paysan, mais d'être vivant, que de régner sur les morts. Rien de pire que la mort. » C'est ce que lui diront aussi, d'une certaine façon, ce qu'il fera, que les sirènes lui feront comprendre. Autrement dit, la gloire immortelle du mort, ce sont les vivants qui s'en souviennent, ce sont eux qui la chantent. Ce sont des êtres qui vivent à la lumière du soleil, des éphémères, qui chantent la gloire immortelle de ceux qui sont passés. Mais ceux qui sont passés dans le monde des morts, ils n'ont plus de mémoire, il n'y a plus de temporalité. Et cette gloire immortelle qu'ils ont voulu acquérir, ils ne sont plus les possesseurs de cette gloire. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de temps chez les morts. Tout est arrêté, il n'y a plus de personne. Ils sont sans visage, sans identité. Et par conséquent, d'une certaine façon, pour les Grecs, la mort, c'est la mort horrible, c'est la phrase de Gorgone, dont nous dirons peut-être un jour un mot, elle est cela. Et c'est pour eux qui ont essayé d'apprivoiser la mort, mais c'est pour les vivants qu'elle est. C'est dans la suite des générations que ceux qui sont morts avec une dimension héroïque restent présents dans la vie des vivants. Chez les morts, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Ulysse, qui était Outis, personne, il récupère son identité chez les vivants, chez les morts, il l'aurait perdu définitivement.